Bonjour à tous, je suis un professeur traversier à Gérando. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du résultat de mon postdoc. Je travaille en collaboration avec plusieurs collègues de mon équipe, Karma, et aussi avec des collègues de l'équipe de POF de l'Université de Gérando. Donc, on va parler d'hydrophytes coalescents. On parle d'hydrophytes coalescents comme de macrophytes submergés. Sont caractérisés par une tige très développée, donc qui présente un appareil racinaire très faible. Et ces genres de macrophytes ont des traits biologiques et fonctionnels qui les favorisent dans la prolifération et dans la compétition contre d'autres espèces submergées, notamment les taux de croissance élevés et une assimilation préférentielle des nutriments par les feuilles, ce qui est très important quand on parle de milieu oligotrophe. Ce sont des plantes qui se reproduisent par voie végétative, donc dans une diffusion par mitrage, culture, et dans nos lacs, dans le lac Aquitaine, dans la côte de l'Aquitaine, notamment, on a deux espèces envahissantes, exotiques et envahissantes, qui sont arrivées depuis une trentaine d'années, le Geria dansa et la Glossiformaio, qui occupent des parties du lac qui sont le plus à l'abri du vent. Ici, on a une carte qui montre l'indice de Guidi. C'est un indice qui décrit un indice de perturbation qui est calculé en fonction de l'intensité de la direction du vent. Donc, on voit les parties les plus claires, donc où les vents sont moins forts, plus faibles. Et c'est justement où ces hydrophytes s'installent et forment des herbiers très denses. Cette année, on a commencé à quantifier la biomasse de ces hydrophytes sur le lac de la Canon. Ici, vous voyez sur cette figure. On a estimé qu'il y a en ce moment plus de 900 tonnes de biomasse en bois sec sur la surface intérieure du lac de la Canon. Et si on compare ces données au niveau du recouvrement avec un recouvrement qu'on avait mesuré en 2011, on voit cependant qu'il n'y a pas une augmentation, une explosion de surface recouverte par ces hydrophytes. Et ce qui est très important, en fait, on n'a pas vu une progression des herbiers, mais on a vu que les zones les plus foncées de cette carte, sont stables dans cette carte, donc on a une stabilité du recouvrement au niveau des herbiers denses. Pourquoi je vais vous montrer d'abord comment ça se déroule le processus d'implantation de ces plantes. Il s'agit donc, comme je dis, d'une reproduction végétative par culture. Il y a des cultures qui flottent, des tiges flottantes, et qui peuvent développer, même quand ils sont dans la colonne d'eau, des racines ananiennes. Et une fois qu'ils sont arrivés au sédiment, ils peuvent s'ancrer et commencer le processus de développement d'une nouvelle plante. Il y a des pousses qui se développent verticalement, qui vont vers la surface. Et après, plusieurs tiges, la formation d'un herbier discontinue. Et c'est ici que les plantes commencent à mourir et les tiges sénescentes commencent à s'accumuler sur le fond sur les sables, et il peut arriver qu'il se forme une couche très épaisse de biomasse morte, c'est dans cet sens, et de sédiments, qui est à la base de la formation des herbiers denses. Les plantes continuent à se développer sur ces amas de biomasse morte. Pourquoi ça nous intéresse de les étudier? C'est des hydrophytes qui sont vus mal par les usagers des lacs, par les habitants, par les pêcheurs, par les chasseurs. Et il y a récemment un effort de gestion très, très important qui a des coûts aussi très importants. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, mais on va parler plutôt des impacts sur la biogéochimie, parce qu'en fait, ils sont importants aussi. Et donc, on voit que cette couche de sédiments qui est à la base des herbiers, c'est un sédiment anoxique qui a une demande biologique d'oxygène très importante. Et donc, on a une consommation d'oxygène et manger le dioxyde de carbone d'abord, mais aussi donc les produits de respiration anaérobique comme le méthane et l'ammonium. En plus, on doit considérer que ces serpentances, ils forment une vraie barrière physique à l'intérieur des anses qui colonisent. On parle d'une profondeur de la colonne d'eau qui peut aller d'un mètre jusqu'à 7 mètres, mais la plupart des plantes se développent disons, en profondeur entre 0 et 2 mètres. Donc c'est des anses qui naturellement seraient soumises à des processus d'agitation de l'eau, donc réoxygénation, mais la présence de ces plantes empêche l'entrée et des courants et donc de la réoxygénation et aussi de l'entrée de l'oxygène atmosphérique par diffusion de l'air. Donc, suivant ces hypothèses, l'année passée, on a commencé à chercher à quantifier les impacts des herbiers sur la biogéochimie. Et sur les lacs de Lacano, on a commencé à faire des campagnes d'échantillonnage jour-nuit de 24 heures et sur les anses sud du lac de Lacano, sur plusieurs stations. Et donc on a tout simplement prélevé à des intervalles réguliers de l'eau à l'intérieur au sein de l'herbier pour la mesure de gaz dissous, oxygène, dioxyde de carbone et méthane et des nutriments inorganiques dissous, en particulier de l'azote, des formes azotées. Ce qu'on a vu, c'est ici vous avez les trois stations du même herbier prélevées. On a des échantillons prélevés pendant 24 heures à intervalles réguliers, oxygène, méthane, dioxyde de carbone et pH. Et là, je vous montrerai vite comment à la station A, on a des patrons qui varient pendant la journée et qui sont facilement imputables à la présence des plantes, à des processus de respiration et des productions primaires. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait qu'une station qui se comportait comme ça, alors qu'il y avait deux autres stations qui avaient une sorte de homogénéisation de patrons pendant la journée. Donc on a commencé à penser que l'influence des plantes était oui importante, mais ce qui devait y avoir quelque chose d'autre, parce que la colonne d'eau était peut-être homogène à cause de la présence des courants de surface et donc qui contribuaient à une dilution. Donc cette année, on a ajouté un niveau d'échantillonnage, un niveau de surface, donc pour voir ce qui se passe au-dessus de plantes. Et ce qu'on a vu, c'est que en fait, il y a des différences entre les concentrations mesurées à la surface où il n'y a pas de plantes et au fond, donc au sein de l'herbier, oui, mais ces différences sont dépendantes, sont toujours à l'interaction avec la station et pas toujours avec la condition jour-nuit. Donc, par exemple, les jours où on s'attendrait d'avoir beaucoup d'oxygène, on ne le trouve pas, et l'inverse aussi. Et ce qui est intéressant, c'est intéressant aussi de dire, c'est que il s'agit d'une situation où on a, oui, une homogénéisation de la colonne d'eau, donc c'est un peu positif, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a toujours un taux d'oxygène très faible, saturation toujours sous les 5% et saturation du méthane et des glucides de carbone très très élevés. Ces concentrations-là sont des concentrations de carbone sursaturées. Donc c'est du carbone qui va passer à l'atmosphère par diffusion et donc c'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre. L'influence des plantes sur la biochimie de l'eau, ça se voit carrément si on considère que les échantillons pris au sein de l'herbier, on voit donc une relation très claire du dioxyde de carbone et de méthane en fonction de la saturation de l'oxygène. Donc les moins d'oxygène, les plus de méthane et des dioxydes de carbone. Ce qui est trivial pour le dioxyde de carbone, et comme on voit, c'est des concentrations très élevées. En fait, on a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans les systèmes par rapport à l'oxygène qui est produit par les plantes, donc beaucoup de respiration anaérobie, donc beaucoup de méthane, et beaucoup d'ammonium. Donc voilà, les premiers résultats nous disent qu'à l'échelle locale, la présence de ces plantes peut impliquer un dysfonctionnement écologique, et avec des phénomènes toxiques et d'anomalies. les rôles qui jouent la quantité de biomasse. Chercher à comprendre s'il y a un seuil acceptable qu'on persiste sur place pour que ce soit possible pour les poumons et pour les vagues de réoxygéner la planète. Et après, on continuera à monitorer surtout l'oxygène parce qu'on a vu que c'est un bon proxy qui explique les autres aussi, l'aspiration matérielle et le fonctionnement du système.
Il y a des suivis là, de nutriments probablement dans la technique.
Ils sont faits toujours au centre du lac. Là, ça fait 2 ans qu'on a commencé à faire suivre les rives. Mais par exemple, dans les cycles jour-nuit, je parle ici les données, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toujours un problème de manque d'oxygène qui fait que les nitrates assimilés, mais on a plus d'ammonium dans les systèmes. Donc c'est pas vraiment idéal.
D'autres questions?
Est-ce que ça supporte, est-ce que ces rives, entre guillemets, supportent des populations d'herbivores
Branchées, des brochets, surtout. La nuit, on les entend. C'est carnivore. Le c'est carnivore, mais oui, il y a tout. Oui, il y a plein de poissons.
C'est exploité, ça rentre dans la chaîne alimentaire.
Oui. Ben, c'est très peuplé, les herbiers de plantes. C'est ce qu'on voudrait faire comprendre aussi aux pêcheurs. En fait, c'est vrai que l'hameçon s'écolle aux tiges, mais c'est vrai qu'il y a plus de brochets. La nuit, parfois, ça semble qu'il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau, c'est des poissons. Ça doit être un gros poisson.
Oui, mais là, c'est une zone de refuge pour eux.
Ah, c'est oui. Après, avoir, oui, si c'est consommé, je parle des œufs de poisson. Non, je ne sais pas.
Des escargots aquatiques?
Escargots, non. Des écrevisses, oui. Beaucoup d'écrevisses. Escargots, on n'a pas vu, non. Bivalve, oui. Bivalve.
Corbicules ou pas?
Pardon?
Les corbicules, il y en a dans le magasin.
Corbicules? C'est les copines.